Des chercheurs ont déterminé que les humains sont attirés par leurs compagnons à quatre pattes à cause de l'évolution des muscles faciaux de ces animaux que nous avons domestiqués. Une autre étude dévoile que le cerveau du chien comporte une zone semblable à celle de l'homme qui le rend sensible à la voix humaine. Il arrive à interpréter les émotions que nous y mettons par une réaction au ton de la voix. Cette fonction cérébrale aurait été présente chez le dernier ancêtre commun à l'homme et au chien, daté d'environ 100 millions d'années. Ce qui impulse une complicité rare entre deux espèces dans le monde animal, et ce depuis des millénaires. Le chien fut le premier animal domestiqué par l'homme du temps où il était chasseur-cueilleur, donc bien avant l'agriculture. Ces deux espèces développent des caractéristiques sociales identiques, vivant sur le même territoire, avec les mêmes proies à chasser. La rivalité a été surmontée. Le processus de domestication a modifié le comportement du chien sauvage en sélectionnant sa capacité à se reposer sur la communication de l'homme. Le chien a évolué et a adapté son comportement. Il a appris à décoder les signaux de l'homme. Une théorie scientifique avance qu'il existe aussi une alchimie mystérieuse entre le chien et son maître, remarquée aussi avec le chat. Les contacts entre ces quadrupèdes et le maître augmenteraient le niveau d'hormones entre eux. Il s'agit de l'ocytocine, l'hormone de sociabilité entre les espèces, d'où ces gestes d'affection et les regards pleins de sens. Appelée « hormone de l'amour », elle aurait le mérite d'encourager la sociabilité entre les êtres de la même espèce et d'assurer un sentiment personnel de satisfaction immédiate et l'instinct maternel permettant la survie de l'espèce. Toutefois, l'homme reste le maître. Il doit conserver le leadership sur son animal de compagnie. Cela lui donne aussi des devoirs. Les chats et les chiens dépendent des humains pour leurs besoins quotidiens, nourriture, eau, abri, soins, affection, etc. De la relation de l'homme au chien dépendront les comportements de celui-ci, donc du choix du futur maître. Qu'attend-on d'un chien ? Qu'il soit utilitaire, combler un manque physique par exemple pour les chiens d'aveugle, un substitut à un manque d'affection par ailleurs, un chien de concours, un simple compagnon, ou encore que l'on s'en serve d'un simple objet pour faire plaisir à un enfant par exemple. Le choix d'un chiot ou d'un chien est primordial. La première approche sera souvent déterminante. Le plus important est de se laisser guider par le cœur. Il faut qu'il y ait de suite une certaine réciprocité. N'oublions pas qu'il s'agit d'une rencontre entre deux animaux sociaux. Le but est de créer une complicité entre maître et animal. Le laisser vivre sans s'en occuper peut devenir source de stress pour les deux parties. À l'autre bout de l'échelle, le choyer comme un humain, faire de l'anthropomorphisme, peut créer des troubles chez le chien. Chacun doit rester à sa place. Le chien vit très mal la séparation d'avec son maître. Prendre un animal de compagnie implique donc de ne pas l'abandonner au premier départ en vacances comme hélas ça se produit souvent. L'abandon pur et simple est une offense à soi-même. Beaucoup trop de chiens et de chats errent et redeviennent sauvages. Il existe des particuliers et des entreprises qui louent leurs services pour garder les chiens pendant les vacances. Au retour, l'affection qu'il apporte à son maître est incommensurable. Le rituel du léchage est une marque de joie, de soulagement, mais aussi de curiosité. Finalement, en pratiquant l'art d'habiter l'instant présent, celui que l'on appelle volontiers le meilleur ami de l'homme apprend à son maître à transmettre de l'amour et de la compassion.